suis aujourd'hui dans le deuxième message d'une série sur la personne du Saint-Esprit. Le premier message, rappelez-vous, il y a 15 jours, c'était « Le Seigneur, c'est l'Esprit ». Et nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, personne merveilleuse, extraordinaire. Dans 15 jours, nous parlerons du Saint-Esprit, notre partenaire de puissance dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler du Saint-Esprit, le Consolateur. Et l'idée clé que je voudrais laisser sur vos cœurs, c'est que le Saint-Esprit n'est pas qu'une force, il n'est pas qu'une puissance, mais il veut devenir un ami réel dans nos vies. Pas simplement à l'église, pas simplement dans notre chambre de prière, mais dans chaque instant de notre vie, il veut être avec nous et il veut nous bénir. Il veut vivre avec nous. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, nous parle de la grâce de Dieu, de l'amour du Seigneur et de la koinonia du Saint-Esprit. Et ce mot grec a deux significations, communion ou communication. Et nous voulons avoir une communion avec le Saint-Esprit et des communications du Saint-Esprit. Et nous avons dit que si nous voulons des communications du Saint-Esprit, il nous faut d'abord une communion avec lui. Et nous avons dit aussi que pour avoir une communion avec lui, il nous faut d'abord le connaître. Aujourd'hui, c'est donc de communion dont je veux parler. Et de ce que le Seigneur voudrait représenter à nos côtés. Jésus l'appelle le Consolateur, celui qui demeure avec nous. On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 12 à 18. Voilà quelques paroles que le Seigneur a adressées à ses disciples quelques heures avant d'être arrêté. Jean 14, verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. » Jésus dit donc que le Saint-Esprit est l'autre consolateur. Mais exactement, qu'est-ce qu'un consolateur? Dans cet enseignement que Jésus donne à ses disciples, il leur dit deux choses importantes. La première le concernait. Oui, dans quelques heures, il les avertissait, il repartirait vers le Père. Pour autant, il ne les oublierait pas. Mais auprès du Père, il serait leur intercesseur. Et ce qu'ils demanderaient en son nom leur sera accordé. Jean chapitre 14, verset 13. Dans la même pensée, Jean, plus tard, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1, dit aussi que Jésus est pour nous dans le ciel un avocat. Si quelqu'un vient à pécher, nous, et là il parle des enfants de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et puis Jésus a promis aussi de ne pas laisser ses disciples et donc nous-mêmes seuls sur cette terre. Et il a promis de leur donner un autre consolateur qui demeurerait avec eux et qui serait même en eux. Et il rajouta même qu'il était avantageux qu'il s'en aille afin que cet autre consolateur vienne à sa place. Alors quand il parle d'un autre consolateur, c'est donc qu'il fait référence indirectement à un premier consolateur. S'il y en a un autre, c'est qu'il y en a eu un avant. Et qui est le premier consolateur? Eh bien, c'est Jésus lui-même. Jésus est le premier consolateur, le divin consolateur. Le prophète Ésaïe l'annonçait, il s'appellerait admirable conseiller. Et quand il en annonce un second, il dit de lui qu'il sera plus avantageux. Alors si forcément il est plus avantageux que Jésus, c'est qu'au moins il est de la même nature que lui. Et donc le consolateur qui doit venir après Jésus doit être aussi divin et glorieux, c'est le Saint-Esprit. Alors j'ai mentionné là plusieurs mots un peu techniques comme avocat, défenseur, conseiller, consolateur, intercesseur. Eh bien tous ces mots en grec sont identiques, c'est le même mot, parakletos, qui veut dire celui qui est appelé à se tenir à côté d'eux. L'avocat se tient à côté de la personne qu'il doit défendre. Le conseiller se tient à côté de celui qu'il doit conseiller. Le consolateur se tient à côté de celui qu'il doit épauler. Si nous résumons ce que je viens de dire, nous comprenons alors que nous n'avons pas un, mais deux paraclètes. Deux paraclètes, deux conseillers, deux consolateurs, semblables, de la même nature, de la même puissance, poursuivant le même but. Un se tient dans les cieux auprès du Père, c'est Jésus. Et un autre est au milieu de nous, auprès de nous, avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et ces deux-là sont identiques. Mais aujourd'hui, c'est de ce paraclète parmi les hommes dont je veux parler, le Saint-Esprit. Dont je disais qu'il ne veut pas simplement être une puissance, une force, mais qu'il veut être notre conseiller, notre aide, notre défenseur, notre consolateur, notre confident. Il veut être réel dans nos vies. Il veut être notre ami. J'ai un ami divin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Autour de trois paroles de Jésus dans les évangiles concernant le Saint-Esprit, je vous propose de voir trois actions importantes que ce paraclète veut alors mener auprès de nous. La première des choses, Jésus le dit, il est celui qui demeure. Il demeure auprès de nous, en nous, pour l'éternité. Deuxièmement, il est celui qui nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Troisièmement, nous le verrons, il est celui qui prend de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Premièrement, Jésus dit qu'il est celui qui demeure avec nous. Au jour de Pentecôte, ayant reçu du Père le Saint-Esprit, Jésus accomplit sa promesse et il le répandit sur la terre. Et depuis, comme au premier jour de la création, le Saint-Esprit se meut au-dessus des hommes et des nations. Et comme la colombe de Noé, il cherche un endroit pour s'établir. Non pas un temple de marbre, non pas un lieu de vénération, mais un homme, une femme, auprès de qui et en qui il peut demeurer. Mais il est l'esprit de sainteté et de vérité. Et il ne vient se poser et remplir la vie que de ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur. Jésus vient toujours avant l'Esprit. Parce que l'agneau vient avant la colombe. Parce que le sang vient avant l'huile. Parce que la Pâque vient avant la Pentecôte. Parce que Jésus est le premier paraclète et que le Saint-Esprit est le second paraclète. Il vient toujours après Jésus. Alors laissez-moi vous mettre en garde contre des raccourcis spirituels. Vouloir vivre des expériences mystiques et spirituelles sans avoir d'abord rencontré Jésus à Golgotha, oui, c'est peut-être rentrer en contact avec des esprits, mais certainement pas le Saint-Esprit, car il ne vient toujours qu'après Jésus. Alors, depuis, le Saint-Esprit, à l'œuvre parmi les nations de la terre, ne poursuit qu'une mission. Et sa mission, c'est de convaincre les hommes. De les convaincre de péché, de justice et de jugement, dit Jésus, c'est-à-dire les convaincre de délaisser leur péché. En cela, il ne veut pas les accabler, les juger, les condamner, mais il les pousse à se tourner vers Dieu et à placer leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Le Saint-Esprit veut convaincre, il veut convaincre, et il veut encore convaincre, et il est patient à convaincre, et il est puissant à convaincre. Combien de temps a-t-il fallu pour que le Saint-Esprit nous convainque? Comment s'est-il pris pour nous convaincre? Pour certains, ça a été peut-être grâce à Dieu une seule prédication, un témoignage, une circonstance, mais pour d'autres, il en a fallu plus d'un message. Il a fallu plus d'une évidence de la part de Dieu, mais il ne s'est pas lassé. Pour certains, ça s'est passé à travers des visions, des sons, je le sais, au milieu de nous. Pour d'autres, à travers une action de puissance, de délivrance, de guérison. Oui, alors on a été convaincus de la puissance de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit a agi. En faisant tout cela, donc, le Saint-Esprit ne cherche qu'une chose, nous convaincre de nous tourner vers notre Seigneur. Et quand un quelconque d'entre les hommes répond à son appel, se tourne vers Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit s'empresse de venir sur lui et de venir établir sa demeure en lui. Un peu comme Jésus, le premier paraclète, traversant la ville de Jéricho, s'arrêta au pied d'un arbre et dit à cet homme, « Zachée, descends ton arbre, car il faut aujourd'hui que je vienne habiter, demeurer dans ta maison. » Et le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Et quand le Saint-Esprit trouve un homme, une femme, un enfant, un vieillard, avec un cœur qui se tourne vers Dieu, aussitôt il lui communique un souffle de vie. Un souffle de délivrance, un souffle de purification, un souffle de guérison, un souffle de liberté. Et c'est là comme une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance selon un principe de vie supérieure, la vie éternelle, la vie selon Dieu. Le Saint-Esprit communique la vie de Dieu. Les premiers qu'il trouva étaient ces 120 hommes et femmes réunis au sein de cette petite communauté à Jérusalem, c'était l'église de Jésus-Christ, qui n'était guère plus alors qu'un faible rameau d'olivier. Il vint pourtant au milieu d'eux, pour demeurer auprès d'eux, pour les consoler du départ de Jésus. Insistons sur ce point. Avant de parler de puissance, de mission, le Saint-Esprit consolateur voulait être au milieu des disciples, être auprès des disciples. Ça nous rappelle tout à fait Jésus qui appela les 12. Non premièrement pour les envoyer, mais pour les avoir avec lui. Marc chapitre 3, verset 14. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu au milieu de nous. C'est Dieu auprès de nous. C'est même Dieu en nous. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel au milieu de nous. Il est Emmanuel dans ma vie. Il est l'autre paraclète, le second, celui qui vient après Christ, mais qui est semblable à Christ en toutes choses. Et il vient habiter en nous, pour demeurer en nous jusque dans l'éternité. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne, parce que Jésus ne pouvait être qu'à un endroit à la fois sur la terre, mais le Saint-Esprit remplit tout en plénitude. Et le Saint-Esprit veut demeurer avec toi. Non pas simplement à l'heure du culte le dimanche matin, non pas simplement quand tu te mets à genoux devant lui le matin ou le soir, ou que tu ouvres la Bible, il veut être avec toi, selon l'expression maintenant, 24-7. Il veut demeurer avec toi. Il veut demeurer avec ton époux, avec ton épouse. Il veut demeurer avec tes enfants. Il veut demeurer dans ta maison. Sache aussi qu'il va prendre le RER avec toi le matin. Il ne va pas te laisser à l'entrée du métro parce qu'il y aurait d'autres gens, mais il vient avec toi. Il va rentrer avec toi dans ton administration, dans ton entreprise. Il sera avec toi lorsque tu t'assieras à ton bureau ou que tu commenceras ton travail. Il sera avec toi tout le long de la journée. Il rentrera avec toi le soir à la maison. Il sera avec tes enfants le long de la journée. Il veut être avec nous à chaque instant. Il n'est pas celui qui dit « Ah, quelles sont les plages horaires où vraiment ça sera spirituel ?» Mais il est avec nous tout le temps. Il est avec nous tout le temps. Mais sommes-nous avec lui? Parce que si lui nous accompagne dans le métro, sommes-nous sûrs que nous avons réalisé sa présence lorsque nous sommes dans le métro? Lorsque nous sommes au travail, où nous disons-nous, bon, le Seigneur, c'est ma rencontre matinale ou ma rencontre du soir, mais après, j'ai ma vie à faire. Non, il veut être avec nous, il veut être avec toi, et il désire aussi que tu sois avec lui. Mon premier point, le Saint-Esprit Consolateur, c'est celui qui demeure auprès de nous, Dieu avec nous. Deuxième chose, Jésus dit, il est celui qui nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Voyons cette parole de Jésus. D'abord, Jean 14, 26, il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il rajoute ensuite, Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il est question du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et nous conduit dans la vérité, donc. Et à ce sujet, Jean écrit encore dans sa première épître, au chapitre 2, verset 20, « Pour vous, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Et mon frère, ma sœur, tu peux dire « J'ai de la connaissance. » Cette onction fait référence au Saint-Esprit. Et nous comprenons que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ayant fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, ont reçu cette connaissance. Ce n'est pas une connaissance liée à des règles, à des commandements, à des doctrines, à des principes religieux, à une dénomination ou une autre, mais la connaissance dont il est question ici, c'est celle de Christ. La connaissance de Jésus. Or, le Saint-Esprit est celui qui sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu, dit l'apôtre Paul. Ce qui veut dire qu'il connaît tout. Car, comme le dit Jésus, il a tout entendu. Toutes les paroles de la vie éternelle, rien ne lui est caché. Et son désir, c'est de nous annoncer tout ce qu'il a entendu. D'abord, nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Nous rappeler les paroles de la vie éternelle qui sont écrites pour notre édification. Mais comme Jésus le dit, il est prêt à nous annoncer aussi les choses à venir. C'est-à-dire qu'il connaît des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Des choses qui sont réservées pour ses enfants, des choses que l'œil ne peut pas voir, l'oreille ne peut entendre, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que le Saint-Esprit connaît et qu'il veut nous révéler. Oui, Dieu tient en réserve pour nous, pour nos vies, nos familles, notre ministère, notre Église, notre pays, des paroles cachées que le Saint-Esprit a entendu et qu'il veut nous annoncer. Le Saint-Esprit est donc mon enseignant personnel. J'ai un docteur à la maison, le plus grand des théologiens à la maison, en cours particulier. Chaque fois que j'ouvre la Bible, il est là. Chaque fois que je prie, il est là. Chaque fois que je médite sur Dieu, il est là. Et son désir, c'est de nous édifier, c'est de nous fortifier. C'est d'étendre notre foi, notre connaissance de Christ, afin, comme Paul l'écrit dans Éphésiens 4, 13, que nous parvenions tous à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors pour ça, il nous accompagne. Il nous parle, il nous instruit dans nos réflexions, nos méditations, nos lectures de la parole, dans les enseignements que nous écoutons et recevons, dans les prières que nous faisons monter vers Dieu. Ça s'appelle l'esprit de sagesse. Et puis, il est prêt aussi à lever le voile sur des choses extraordinaires, glorieuses, et à nous les montrer. C'est l'esprit de révélation. Et dans Éphésiens 1, 17, Paul parle de cet esprit, un esprit, pas de un esprit, de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ, sa connaissance. Vous allez me dire, mais alors à quoi il sert le pasteur? La mission, c'est de vous aider à mettre de l'ordre dans tout ce qui est en vous. Et pour que ça soit efficace, il faut que je prêche avec l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit, sinon ce ne sont que des paroles d'hommes et qui ne produiront aucun effet. Mais voyez-vous, je considère que vous avez de la connaissance. Et je dis souvent, je prends cette image. Je dis que la connaissance dans le cœur des chrétiens est souvent semblable à une livraison de briques pour construire. Mais toutes les briques sont là. Elles viennent de la parole, elles viennent de notre communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des briques. Mais il y a une différence entre un tas de briques et une construction. Et nous sommes là pour vous aider à ordonner les choses, à essayer de comprendre comment ces connaissances que vous avez déjà vont pouvoir s'imbriquer les unes par rapport aux autres. Mais la connaissance est dans vos cœurs. Elle est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le premier enseignant, le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. Tout comme il n'y a qu'un prophète. C'est Jésus-Christ. Parce que les prophètes sont remplis eux-mêmes de l'Esprit de Christ. Ok ? C'est le même parallélisme. Pardon. Et donc, pas après pas de sagesse et de révélation, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Cependant, il ne veut pas que nous ayons simplement de la connaissance intellectuelle ou même spirituelle. Son désir est de nous amener à vivre d'une manière pratique la connaissance qu'il nous donne. Et ça, dans tous les aspects de notre vie. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Vous voyez, il ne se satisfait pas simplement de nous enseigner dans la vérité. Il veut nous conduire dans la vérité. Pour que nous vivions la vérité, nous expérimentions la vérité. Nous avancions dans la vérité. Et cette vérité, elle se vit à chaque instant. Et notre vie, nos choix, nos décisions, notre travail, nos sentiments, notre bien-être moral, physique, matériel, tout ça est important auprès du Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il vit en nous. Et parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Et qu'il désire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il veut donc nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est la vérité de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas ? Et pour cela, il nous faut apprendre à reconnaître le Saint-Esprit, sa présence, ses conseils, ses avertissements, au milieu de tous les bruits de la ville et de la vie. Apprendre à l'entendre. Il faut que notre oreille donc soit éduquée. Comme le prophète Ésaïe l'écrit au chapitre 50, « Seigneur, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Nous en parlerons plus précisément la prochaine fois lorsque je m'arrêterai sur les communications du Saint-Esprit. À travers des intuitions, des inspirations, des instructions. Mais je voudrais déjà que vous réalisiez combien est précieuse l'assistance du Saint-Esprit qui veut nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur. Parce que le Saint-Esprit est celui qui peut nous garder de bien des bêtises, de bien de mauvaises décisions. Il peut nous amener à prendre les bonnes décisions. Il peut nous faire gagner du temps et en tout cas éviter d'en perdre. Je vais même vous dire, il est capable de nous faire gagner de l'argent et éviter d'en perdre bêtement, si nous savons être à son écoute. Donc ça, on en reparlera, Dieu voulant, lors du prochain message. Donc, premièrement, il est celui qui demeure avec nous, il veut être réel dans nos vies, chaque instant. Deuxièmement, il est celui qui veut nous enseigner, il a entendu toutes les paroles de la vie éternelle et il veut nous les annoncer. Et non seulement il veut nous enseigner pour que nous ayons de la connaissance, mais il veut nous conduire dans la pratique de ces choses. Troisième point, Jésus nous dit qu'il est celui qui prend de ce qui est à lui pour nous le donner. Pente de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Et dans Éphésiens 1, 3 à 14, nous apprenons que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 3. Et au verset 14, l'apôtre écrit que nous avons reçu le Saint-Esprit comme un gage, c'est-à-dire un prémisse, un acompte de notre héritage. Quel héritage ? On est content d'apprendre qu'on a un héritage, n'est-ce pas ? Et c'est encore merveilleux, encore plus merveilleux quand on sait de qui vient l'héritage. Ce n'est pas simplement l'héritage d'une vieille tante qu'on n'a pas vue depuis pas mal d'années, mais l'héritage dont il est question ici, c'est celui du Père. Cet héritage que Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ. Dans sa dernière prière au Père, Jésus a dit, Jean 17, verset 10, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Voilà de quoi nous sommes en train de parler là. De ce qui est au Père et au Fils, ça c'est notre héritage. Parce que Dieu fait de nous des co-héritiers au même rang que Christ. Mais ce n'est pas simplement qu'un héritage à venir. Ce n'est pas simplement un héritage céleste. Dans Éphésiens 1, 18, Paul nous dit que c'est un héritage au milieu des saints. Il est au milieu de nous, cet héritage. Il est donc accessible. Comment ? Par le Saint-Esprit, qui est le gage de cet héritage. Et Dieu ne veut pas nous donner une petite portion de cet héritage. Ah, aujourd'hui tu auras ça, dans le ciel tu auras le reste. Et il nous donne en fonction de notre foi, en fonction de notre amour. Il est prêt à nous donner tout. D'ailleurs, savez-vous que l'apôtre Paul a écrit « Tout est à nous ». C'est des mots extraordinaires. « Tout est à nous ». 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, si vous voulez vérifier, tellement c'est extraordinaire. Alors, la mission du Saint-Esprit, cette troisième mission, consiste maintenant à prendre de cet héritage, l'héritage de Christ, et à nous le donner. Ce que Jésus dit dans Jean 16, verset 13, « Il, le Consolateur, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit doit prendre donc de ce qui est à Christ pour nous l'annoncer. Il doit prendre de l'héritage de Jésus auquel il a entièrement accès, c'est-à-dire grâce, richesse spirituelle, etc., etc. Et il doit nous les annoncer, nous les donner. Et ne pensez pas qu'il est en train de dérober ce qui appartient à Christ. Parce que Jésus est désireux lui-même le premier de partager avec nous ce qu'il a reçu du Père. Et ceci sans limite. Alors peut-être certains seraient timides ou timorés, ou vous savez des fois trop spirituels pour prétendre recevoir ce que le Saint-Esprit prend à Christ et de dire « Oh Seigneur, tu m'as déjà tant comblé, je n'en suis pas digne, garde ce qui est à toi et puis quand je serai là-haut dans le ciel, nous en profiterons ensemble, gloire à Dieu. » Eh bien sachez ceci, que c'est en recevant ce que le Saint-Esprit prend librement à Jésus-Christ pour nous le donner, que nous rendons un culte à Jésus. Que nous glorifions Jésus. Il le dit lui-même, il me glorifiera en prenant de ce qui est à moi et en vous l'annonçant. Il veut prendre de ce qui est éternel, de ce qui est divin, de ce qui est glorieux, de ce qui est la vie, pour nous le donner. Et en cela, nous glorifions Jésus. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il prend quelque chose de Christ et que nous le recevons, ces choses nous transforment à l'image de Jésus. Comprenez bien que nous ne glorifions pas Jésus avec qui nous sommes. Je vais vous le dire, ce n'est pas même mon meilleur qui glorifie Jésus. la seule chose qui glorifie Dieu et le Fils, c'est l'Esprit. Le Père cherche des adorateurs. Non pas des adorateurs qui donnent leur meilleur, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus afin de faire de nous de véritables adorateurs, qui soient agréables auprès du Père. Mais non pas simplement des adorateurs du dimanche matin, mais des adorateurs de tous les jours et dans chaque circonstance. Alors comme l'apôtre Pierre le dit dans sa seconde épître, à nous, par sa divine puissance, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ces promesses s'appellent guérison, purification, renouvellement d'intelligence. Dieu nous rend intelligents. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas intelligents, mais Dieu nous rend encore plus intelligents. Créativité. Dieu nous rend créatifs. Dans les arts, dans la science, dans l'industrie, dans l'administration. Les chrétiens ont marqué l'histoire par un esprit créatif à la manière de Bethsaida et Oholiab. Et regardez donc Israël, l'esprit créatif qu'il y a chez ces hommes et ces femmes. Eh bien, Dieu a mis cet esprit créatif, cet esprit d'intelligence au milieu de son peuple. Et le Saint-Esprit veut prendre ça pour nous le donner afin que nous glorifions Jésus. Ça s'appelle la sanctification. Et Dieu est aussi prêt à y ajouter la puissance. Nous en parlerons la prochaine fois. Et je vais même dire cela. Il y a quelques années, c'est vrai, on n'aurait pas parlé comme ça. Ne pensez pas que je cède à des modes, mais je crois vraiment ce que je dis. Le Saint-Esprit est prêt aussi à rajouter prospérité et succès familial, social, professionnel, car Dieu n'est pas opposé à cela, mais à condition que nous sachions garder un esprit d'action de grâce, de contentement, d'humilité et de libéralité envers ceux qui ont moins que ce que Dieu nous donne. Tout ceci, le Saint-Esprit l'a entendu. Il est prêt à nous révéler les choses à venir. Il est prêt à nous donner ce qui appartient à Christ, si nous savons être à son écoute et nous laisser conduire par lui. Alors le Saint-Esprit a donc des choses extraordinaires à nous communiquer, nous en parlerons la prochaine fois. Et pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, il faut d'abord apprendre à vivre avec lui. Et ce matin, je ne suis pas en train de parler, voyez-vous, simplement d'une communion spirituelle. Je veux vraiment parler d'une communion de vie. Le Saint-Esprit veut vivre auprès de moi. Et je veux vivre auprès de lui. Il veut être mon ami. Je veux être son ami. Tout comme Dieu était lié à Abraham et Abraham lié à Dieu, je veux moi aussi être lié avec le Saint-Esprit. Je veux vivre avec lui chaque jour. Vous le savez, hein, prédicateur bien connu a intitulé un de ses livres, deux livres, le premier « Bonjour Saint-Esprit » et le deuxième « Bienvenue Saint-Esprit ». Eh bien, je veux lui dire « Bienvenue Saint-Esprit ». Bienvenue. Ça, c'est la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Ça, c'est la vie que Jésus a prévue pour nous. Non pas une vie où nous appuyons sur nos forces ou sur des règles, mais une vie où nous avons un consolateur. Un conseiller, un défenseur qui s'appelle le Saint-Esprit. Il vit après de moi, il vit en moi. Je veux qu'il soit réel dans ma vie, de plus en plus réel. Je veux l'aimer de plus en plus. Je veux m'attacher à lui de plus en plus. Jusqu'à devenir, si Dieu le veut, comme une seule, comme une unité avec lui. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ma prière pour conclure ce message, c'est que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation concernant le Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas de ceux qui le regardent simplement comme une force, comme une action, comme une puissance, mais que nous soyons de ceux qui le connaissons comme un ami, qui demeure avec nous chaque instant de chaque jour, comme quelqu'un qui veut nous enseigner, comme quelqu'un qui veut nous conduire dans la vérité, comme quelqu'un qui prend de ce qui est à toi pour nous l'annoncer. Seigneur, tu veux être notre ami. Ma prière, mon Dieu, c'est que demain matin, en nous levant, nous ne t'oublions pas. Mais nous soyons conscients que tu es avec nous. Seigneur, merci de nous rendre sensibles à ta présence. Parce que nous voulons avec toi une communion, non pas simplement une communion d'adoration dans l'Église, mais une communion de vie. Amen, amen et amen.